du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, les cinq océans, Atlantique, Pacifique, Indien, Arctique et Austral, communiquent tous entre eux. Voilà pourquoi un jour, le biologiste Gilles Boeuf m'a dit « arrête de dire les océans, il n'y en a qu'un finalement ». Depuis, je dis donc l'océan pour parler de cette immense masse d'eau qui recouvre les deux tiers de notre planète et qui joue un rôle essentiel dans la régulation de sa température. Car l'océan échange en permanence avec l'atmosphère, il stocke et redistribue d'énormes quantités de chaleur autour du globe par l'intermédiaire des courants marins. C'est fascinant et nous allons tout vous expliquer dans un instant avec malheureusement une pointe d'inquiétude parce que pour résumer, c'est un peu comme si l'océan en avait marre de corriger nos erreurs. Son rôle de régulateur commence sérieusement à être perturbé par le changement climatique, à tel point que le Gulf Stream, ce courant marin qui tempère le climat européen, serait en train de ralentir. Pour comprendre ce phénomène, nous irons au large de l'Islande sur le bateau d'expédition de l'association Uno Mundo avec Samuel Turpin et l'océanographe Cédric Courzon. Plus globalement, comment va l'océan ? Nous en parlons tout de suite avec notre invité.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Jean-Baptiste Salé.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au CNRS, au laboratoire d'océanographie et du climat. En août dernier, le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, a publié le premier chapitre de son sixième rapport. Et une partie est consacrée au changement de l'océan, du niveau de la mer et de la cryosphère. Vous avez participé à la rédaction de ce chapitre. Alors, on va rentrer un peu dans le détail de ce qu'il y a dans ce rapport. Mais est-ce que vous pouvez tout d'abord nous rappeler le rôle de régulateur de température que joue l'océan. L'océan pour les nuls, en gros.
Alors, l'océan, comme vous l'avez rappelé, est un puissant régulateur thermique de la planète. Dans un fonctionnement normal, sans changement climatique, on reçoit plus de chaleur à l'équateur par le soleil qu'au pôle. Et donc, l'océan et l'atmosphère, d'ailleurs, hein, les deux sont fondamentaux dans cette redistribution de chaleur, redistribuent la chaleur sur l'ensemble de la planète pour, en gros, transporter de la chaleur depuis l'équateur vers les pôles. Donc ça, c'est le fonctionnement normal de l'atmosphère et de l'océan. Donc, en gros, mieux répartir, jouer le rôle d'une pompe à chaleur sur la planète pour mieux répartir la chaleur sur l'ensemble de la planète et donc impacter fortement les climats locaux. Dans un contexte de changement climatique, donc quand on dérègle l'énergie qu'on reçoit sur la Terre, l'océan a un rôle tout particulier, bien plus important que l'atmosphère pour le coup, c'est de stocker de grandes quantités de chaleur. C'est plus de 90% de l'excès de chaleur qui est associé au changement climatique depuis les années 70 est en réalité stocké dans l'océan. Il n'y en a qu'un pour cent dans l'atmosphère. Alors on ressent ce réchauffement de température qui est très important avec un accroissement de l'intensité de la fréquence des extrêmes dans l'atmosphère. Mais en réalité, 90% de la chaleur est stockée dans les océans. Et donc on voit ici le rôle central que l'océan joue pour rendre un service, si je puis dire, aux sociétés humaines et aux écosystèmes qui vivent dans l'atmosphère, pour stocker cette chaleur dans ces fonds.
Alors, dans le chapitre auquel vous avez participé dans ce dernier rapport du GIEC, vous démontrez que le changement climatique est désormais observé dans toutes les régions du globe.
Oui, tout à fait. Donc, c'est une conclusion forte de ce dernier rapport du GIEC, donc publié en août dernier, c'est que le changement climatique est ressenti sous diverses formes sur l'ensemble des régions du monde, notamment dans les océans, et que ce réchauffement climatique est dû aux activités humaines.
Et cela inclut d'importants changements dans les océans. Alors, lesquels en priorité ?
Alors, comme je le disais, le rôle de l'océan donc dans la régulation du climat, notamment en réponse au changement climatique, c'est de stocker d'importantes quantités de chaleur, mais pas que, c'est aussi de stocker d'importantes quantités de carbone. Il faut bien se rendre compte que quand on émet une tonne de carbone, bah, il y a un quart qui se retrouve dans les océans, un quart qui se retrouve dans les forêts, et donc l'océan, là aussi, nous rend un service assez important pour la réponse de la planète au changement climatique. Alors tout ça, ça a un coût. Ça a un coût, et l'océan est du coup en train de changer. Les changements qu'on observe dans l'océan et qu'on prévoit qui vont continuer dans les décennies et siècles à venir, c'est un réchauffement dans les profondeurs de l'océan, un réchauffement qui est très visible en surface, mais qui va jusque dans les profondeurs, jusque dans les abysses même, à plus de 4 km sous la surface de la mer. Ce réchauffement, il est aussi accompagné d'une acidification des eaux. Étant donné que l'océan prend du carbone par réaction chimique, on a une acidification des eaux de surface notamment, mais encore une fois aussi dans les profondeurs. Et puis, d'une manière similaire à ce qu'on voit dans l'atmosphère, on a aussi des extrêmes qu'on appelle des vagues de chaleur marine qui frappent les océans avec des impacts très forts sur les écosystèmes.
Alors, c'est quoi une vague de chaleur marine?
De manière très similaire à ce qu'on peut vivre nous dans l'atmosphère, c'est une canicule au niveau des eaux océaniques. Donc c'est un excès de température momentanée sur de très vastes régions océaniques.
Et ça se produit partout dans l'océan. Comment ça s'explique?
On observe ces vagues de chaleur marine dans l'ensemble des océans, alors pas de manière continue, alors que c'est de la même façon que les canicules, c'est temporaire, et ça s'explique majoritairement par l'augmentation de la température moyenne des océans, qui fait que de temps en temps, on a ces grandes étendues océaniques qui viennent vivre des températures bien plus importantes.
Est-ce qu'on peut calculer de combien de degrés les températures des océans ont augmenté?
Oui, tout à fait. Donc, ça fait partie de l'évaluation du rapport du GIEC. On estime aujourd'hui que la température de la Terre en moyenne globale a augmenté de 1,1 degré sur l'ensemble de la planète. Il s'avère que les terres émergées se réchauffent plus vite que les océans. Et la température des océans a augmenté en gros de 0,9 degré depuis l'ère pré-industrielle.
Et alors, ça représente beaucoup, parce que 0,9 degrés, hein, c'est toujours la même question. On se dit, c'est pas grand-chose.
Ça représente énormément. Encore une fois, c'est 90% de ce 0,9 degré. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'océan a une capacité calorifique extrêmement grande. Ce que ça veut dire, c'est que 0,9 degré sur l'ensemble du volume de l'océan, hein, les océans représentent 70% de la surface terrestre, c'est énormément de quantité de chaleur. C'est 90% de l'excès de chaleur associé au réchauffement climatique depuis les années 70. Et donc, ça représente une très grande quantité de chaleur et ça a un impact, on l'observe, sur les écosystèmes.
Et ça a un impact aussi sur la hausse du niveau de la mer, hein, globalement. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on dit hausse du niveau que de la mer, hein, c'est la hausse du niveau de l'océan globalement. L'océan a déjà monté et ça va continuer.
Oui, tout à fait. Donc, un autre changement qu'on observe, faites bien de le mentionner, c'est la hausse du niveau des mers, qu'on estime à en gros 20 cm depuis l'ère pré-industrielle. Et en fait, 50% de la moitié de cette hausse, elle est due au réchauffement des océans. C'est les océans qui se réchauffent, en fait, se dilatent, prennent plus de volume et provoquent une hausse du niveau des mers. L'autre moitié de la hausse est due à la fonte de toutes les parties englacées de la planète, donc notamment les calottes polaires et les glaciers.
Voilà, qui en fondant, ben, remplissent plus le verre, on va dire.
Exactement.
Alors, l'une des conséquences pourrait être un affaiblissement du Gulf Stream. Deux nouvelles études publiées dans la revue Nature viennent conforter cette hypothèse qui a émergé il y a déjà 30 ans. Ce courant marin qui tempère le climat sur l'Europe serait à son plus bas niveau depuis 1000 ans. Dans les prochaines décennies, la côte ouest de l'Europe pourrait perdre de 1 à 3 degrés en moyenne sur l'année, avec de forts contrastes entre les saisons. Londres pourrait par exemple alterner des étés caniculaires avec des longues périodes de pluie sur le reste de l'année, et plus à l'est, la ville de Hambourg pourrait enregistrer des chutes de température de 10 degrés l'hiver.
Vous avez fait 2000 km à vol d'oiseau depuis Roscoff là pour arriver en Islande. J'ai hâte de voir les résultats. Comment s'est comportée la sonde en mer? Ça s'est bien passé?
Là, on est parti sur un système avec une tige en acier qui ne crée pas trop de traînée, avec un petit tuyau flexible. Ça a l'air de plutôt bien marcher. Par contre, on a eu des petits soucis du coup sur la sonde salinité. Température, on a les données. Salinité, quelques soucis.
D'accord, bah, je vais regarder ce qui s'est passé. C'est en tout cas hyper cool que vous ayez pu prélever ces infos avec une Mundo. Ça va être précieux pour ma campagne de lancement de bateau là.
Tobias, bonjour.
Bonjour.
Tobias, Unomundo Expédition, c'est quoi?
C'est une association qui a à la fois un objectif de faciliter la recherche en Arctique. On agit avec notre voilier Northabout comme une plateforme logistique pour la recherche, mais aussi de travail de transmission par rapport au changement climatique et donc de pédagogie. D'ailleurs, là, c'est les écoles qui viennent à nous en Islande cet été. Et on a quelques enfants qui montent à bord. Ils vont suivre avec Cédric l'expérience sur la salinité, comprendre la sonde. Et ils feront aussi un petit peu de collecte de plancton avec un des programmes de Astrolab Expédition.
Et le bateau, le Northobot, a une certaine histoire, hein.
On est très fiers d'avoir Northobot, qui est le seul navire à avoir effectué deux circumnavigations complètes de l'Arctique et qui témoigne en fait des changements climatiques au pôle Nord.
Nous partons, ou plutôt nous naviguons aujourd'hui au large de l'Islande avec le bateau d'expédition de l'association Uno Mundo et l'océanographe Cédric Courzon. Ils ont réalisé des mesures de température et de salinité entre l'Atlantique Nord et l'océan Arctique. C'est un reportage de Samuel Turpin qui lui aussi était à bord de ce bateau tout l'été.
Cédric, on va se mettre à l'abri un petit peu du vent parce que ça, depuis 2 heures là, ça a forci, hein.
Ouais, ça s'est pas mal secoué. J'étais à l'intérieur tranquillement en train de travailler et en remettant la tête dehors, on a pris pas mal de vent et de pluie.
On a 15-20 nœuds là et puis une petite houle de 1m50, 2m.
Ouais, à la louche. C'est dommage, ça nous empêche de voir les orques, mais bon, ce sera une prochaine fois.
Alors, on est au large des îles Vestmann, en Islande. On est parti le 1er juillet de Roscoff avec à bord une sonde. Cette sonde, elle mesure la température et la salinité des océans.
Donc là, actuellement, la sonde qui est à bord, elle mesure effectivement la température et la salinité de l'eau de mer. C'est un petit boîtier qui est attaché, comme tu peux le voir, sur le balcon arrière, avec un câble qui est plongé à 1 mètre dans l'eau avec une petite perche, dont la première a cassé d'ailleurs pendant la traversée, mais la deuxième marche très très bien, donc je suis content.
Et un petit capteur solaire aussi.
Et un petit capteur solaire pour recharger les batteries. Il y a aussi un petit GPS pour savoir où on est, et quelle journée, et quel jour on prend les mesures. Voilà, donc le boîtier est entièrement autonome, comme ça il ne prend pas sur l'énergie du bord si précieuse quand on est en traversée. Le panneau solaire alimente très bien le boîtier. Et, mais je suis même content parce qu'en Islande, où il fait quand même, comme en ce moment, très gris et très pluvieux, et ben, la batterie est toujours pleine. Donc le panneau solaire fait son travail.
À quoi ça sert de mesurer la température et la salinité des océans ?
L'idée, c'est de regarder comment les différentes masses d'eau se déplacent. Il y a des eaux qui sont plus chaudes, il y a des eaux qui sont plus lourdes, il y a des eaux qui sont plus denses. Donc par exemple, une eau peut être plus lourde, soit parce qu'elle est plus froide, soit parce qu'elle est plus salée, soit parce qu'elle est plus riche en nutriments. Et donc, quand on veut comprendre comment l'océan planétaire bouge, comment les masses d'eau se déplacent, comment les courants marins se déplacent, on va devoir étudier les deux facteurs qui impactent sur la densité de l'eau, c'est la température et la salinité. Et donc, en mesurant ces deux paramètres, on peut en déduire la densité de l'eau, on peut remonter sur la trace des courants marins et observer leurs déplacements et leurs évolutions dans le temps. Mon objet d'étude, c'est l'océan dans son entier. J'essaie de comprendre comment il bouge, comment il évolue, comment il change, comment il interagit avec l'atmosphère et comment tout ça, ça impacte le climat.
Aujourd'hui, clairement, dans la modélisation des scénarios climatiques, la grande inconnue, ce sont les océans.
On n'a pas forcément en tête que le réchauffement climatique, il réchauffe aussi l'océan. Pourtant, c'est le premier moteur de la machine climatique. C'est vraiment l'océan sur Terre qui régule la température sur l'ensemble de la planète et qui est le principal acteur du climat. Comprendre comment fonctionne l'océan, comprendre s'il se réchauffe, comprendre s'il évolue, c'est juste fondamental pour comprendre l'évolution climatique. Vu la vitesse à laquelle évolue le climat, il faut l'étudier rapidement et à grande échelle. Ah. On fait ça sur la tête.
On va virer. Donc attention la tête. La baume va nous passer au-dessus. La baume de la grand voile.
La voile faceille, on va être prêt à virer. On attend que le vent s'engouffre de l'autre côté de la voile. On a la baume juste au-dessus de nous, on n'a pas intérêt à se relever. Hop, on s'est pris une vague sur la tête.
À bâbord, plein travers.
Tu disais que ça bastonnait tout à l'heure, je crois qu'on n'y est pas encore.
Voilà, la météo c'est vraiment, vraiment dégradé. Hein. Condition islandaise.
Eh, c'est ça. Là, je crois qu'ils ont installé la trinquette en plus du Génois, donc une petite voile qui s'insère entre le Génois et la grand voile. Comme le vent est en train de monter, ils mettent une voile plus petite et plus facile à manipuler. Donc c'est ça qu'on entend, c'est le Génois qui claque. Du coup, on penche de l'autre côté maintenant. Il faut que je reprenne mes appuis.
C'est la vie du marin, hein. c'est bâbord, tribord, mais c'est jamais sur les deux pieds. On va se mettre à l'abri du cockpit. Voilà, il y a un petit peu moins de vent par ici. On sera plus confortable. Alors Cédric, si nous sommes au large de l'Islande pour effectuer ces mesures, ce n'est pas vraiment un hasard. Hein. C'est parce que le Gulf Stream passe au sud de l'île et vient effleurer le cercle polaire. Alors le Gulf Stream, c'est un courant d'environ 100 km de large qui se situe entre 800 et 1200 mètres de profondeur et qui avance en moyenne à 2 mètres par seconde. Et deux récentes études publiées dans la revue scientifique Nature prévoient prochainement un ralentissement, voire son interruption temporaire.
Le Gulf Stream, il transporte l'eau chaude des Caraïbes vers la région Groenland, Islande, donc vers le pôle Nord, où l'eau se refroidit et redescend sur le plancher océanique jusqu'en Antarctique, où il va remonter. Et donc la partie qui va des Caraïbes jusqu'en Europe, Groenland, Islande, c'est le Gulf Stream. Et donc ça nous amène de l'eau chaude. Sauf qu'avec le réchauffement global, on peut observer que les banquises du Groenland sont en train de fondre. Si les banquises du Groenland fondent, ça va apporter un courant d'eau douce très important qui va venir couper en deux le Gulf Stream et qui va le ralentir et le perturber. En Europe, on a un environnement qui est quand même très doux, très tempéré.
Grâce à ce Gulf Stream.
Grâce à ce Gulf Stream, exactement. Au Portugal, qui a la même latitude que New York, hein, on n'a pas du tout le même climat. Et ça, c'est parce qu'on a ce Gulf Stream, donc ces eaux chaudes et cet air chaud qui vient des Caraïbes et qui réchauffe l'Europe, qui fait qu'on a ce climat tempéré. Pour le moment, on ne pense pas que le Gulf Stream va s'interrompre, mais il va ralentir à cause des fonds des glaces du Groenland. Et ce ralentissement va impacter la température moyenne de l'Europe de 1 ou 2 degrés. Mais ça, c'est énorme, parce qu'une moyenne de 1 ou 2 degrés, ça va complètement modifier le climat européen, avec des contrastes beaucoup plus élevés. On aura un climat qui est beaucoup moins tempéré, mais beaucoup plus continental, et avec notamment des formations de cyclones, comme on peut observer dans certaines régions des États-Unis, à la même hauteur, où on peut avoir du coup des pluies diluviennes, grand froid et tempête de neige l'hiver, grand chaud l'été. C'est ce qui nous attend si on continue à laisser ce Gulf Stream s'interrompre.
Et le Gulf Stream fait partie d'une mécanique bien plus large. Au niveau du globe, hein, on parle de circulation thermohaline. C'est un genre de tapis roulant océanique qui est à l'origine des échanges de chaleur de l'océan vers l'atmosphère.
Exactement, cette circulation thermohaline, donc thermo pour température et haline pour salinité, c'est la circulation de l'eau autour du monde. En fait, toutes ces différences de température et de salinité des différentes masses d'eau autour du monde, c'est des conséquences de régulation de température sur Terre. C'est-à-dire que la zone équatoriale, la zone tropicale, est la plus chauffée par le soleil. Et donc, l'eau transporte la température aux différents endroits dans le monde. Et donc, c'est pour ça qu'on observe un peu partout des zones chaudes, des zones froides, en surface ou en profondeur.
Ça joue aussi le rôle un peu de chauffage central de la Terre, en fait.
Et complètement. Quand on a un chauffage central dans un immeuble avec des radiateurs à eau chaude, l'eau chaude est produite à un endroit, il l'emmène vers les zones froides, la zone froide retourne vers la zone chaude pour être réchauffée à nouveau. C'est exactement ce qui se passe. L'eau chaude est produite par les zones tropicales, par le soleil, et elle va aller réchauffer l'ensemble de la Terre. Et une fois qu'elle s'est refroidie dans les pôles, elle revient au niveau de l'équateur pour se réchauffer et ça recommence.
Sur un cycle d'environ combien d'années ?
Si on lâche une goutte d'eau en Islande maintenant, elle aura fait le tour de la Terre, visité toutes les profondeurs océaniques au bout de 700 ans. Donc c'est grâce à cette circulation qu'on a des zones habitables dans les régions froides, parce qu'elles ne sont pas si froides que ça. Elles pourraient l'être beaucoup plus s'il n'y avait pas cette circulation-là. Les zones chaudes pourraient être beaucoup plus chaudes s'il n'y avait pas cette circulation.
Oh, will I call him in? Will I call him in? y va, tu me mets à l'eau. Donc là, le filet, il va te traîner dans l'eau comme ça. Il faut voir ça comme une passoire. Donc là, tu as une maille et l'eau va passer à travers la passoire. Comme ça.
Et pas les,
et pas les planctons, exactement. Du coup, ça va faire comme un entonnoir où tous les planctons vont arriver sur le fond ici. Dedans, il y aura des petits planctons qu'on regardera au microscope. Essaye de l'amener à bord comme ça, debout, vertical. Et vous voyez déjà?
Ouais, là c'est marron.
Tout le truc marron là?
C'est du phytoplancton.
C'est du phytoplancton ça. C'est des micro-algues qui fabriquent l'oxygène qu'on respire.
Ça c'est du zoo. Du phyto.
Ouais.
Tout le marron.
La petite purée marron c'est du phyto.
Oh, ça a une odeur bizarre.
Ouais, ça sent le poisson. Et voilà, on a notre soupe de plancton pour ce soir.
Cédric, le plancton, c'est un peu le héros des océans. Il est au début de la chaîne alimentaire, il nous produit de l'oxygène et il est en première ligne de la lutte contre le dérèglement climatique, dont l'une des conséquences principales est l'acidification des océans. L'acidification, c'est une saturation de l'eau de mer en dioxyde de carbone.
Donc le CO2, c'est un gaz qui est dans l'air parmi d'autres gaz comme l'oxygène, comme le méthane, comme voilà, plusieurs gaz qui sont dans notre atmosphère. Et il va se diluer dans l'eau. Ça veut dire qu'au contact de la surface de l'eau, il va se dissoudre un peu comme du sucre dans l'eau. Et cette dissolution va produire des réactions chimiques dans l'eau qui vont acidifier l'eau. C'est un processus qui est normal et qui est nécessaire pour réguler ce qu'on appelle le pH, c'est-à-dire la mesure de l'acidité de l'océan pour qu'on ait un pH qui soit viable pour que les espèces vivent dedans. Sauf que si on apporte beaucoup plus de CO2 dans l'atmosphère, on va apporter aussi beaucoup plus de CO2 dans l'océan parce qu'il va se diluer de la même manière.
Là, on estime que environ 30% du surplus de CO2 dégagé depuis l'ère industrielle a été absorbé par les océans. 30%.
Et c'est l'une des raisons principales de l'acidification des océans. Et donc là où on avait un équilibre d'acidification naturelle avant, avec cet excès de gaz à effet de serre qu'on a mis dans l'atmosphère, on a déséquilibré ce processus qui, du coup, tend à acidifier beaucoup plus l'océan. Et cette acidification, elle peut avoir des conséquences dramatiques sur tout l'écosystème biologique qui vit dans l'océan.
Ce que tu viens de décrire, c'est le phénomène de dissolution naturelle qui représenterait environ 90% du dioxyde de carbone par les océans. Mais il existe un second phénomène, c'est celui de la photosynthèse par le phytoplancton.
Alors effectivement, le processus de photosynthèse, il est lié aux micro-organismes vivants qui sont dans l'océan, qu'on appelle le plancton. Il constitue 95% de la masse biologique océanique. Donc le plancton, c'est facile, c'est tout ce qui est dans l'océan et qui ne nage pas. Les méduses, c'est du plancton, les œufs de poisson, c'est du plancton, les larves de crevettes, c'est du plancton.
Et on distingue le zooplancton du phytoplancton.
Exactement. Donc dans le zooplancton, c'est tout ce qui est animal, et le phytoplancton, c'est tout ce qui est végétal. Et le phytoplancton, donc végétal, c'est comme les arbres, comme les fleurs, c'est des organismes qui absorbent la lumière du soleil, qui absorbent le CO2 et qui produisent de l'oxygène. Typiquement, quand on respire de l'oxygène qui est produit par les forêts tropicales et par l'océan. Pour te donner une idée, si tu respires 3 fois, sur 3 inspirations, il y en a une qui vient des forêts tropicales et 2 qui est produite par le phytoplancton des océans. Donc l'océan et son phytoplancton, c'est le premier poumon de la planète.
Le phytoplancton, il a aussi un rôle quand il meurt.
Le plancton, quand il meurt, il va tomber au fond de l'océan. Et donc on a une énorme masse biologique qui va tomber au fond de l'océan et qui va créer ce qu'on appelle une forme de nécromasse. Les espèces qui sont au fond de l'eau vont se développer encore plus grâce à cet apport de nourriture et elles vont consommer l'oxygène du fond des océans et produire du CO2. Donc on a un processus à la mort du plancton de création de CO2 par l'alimentation des espèces sous-marines. Et si jamais on a un apport majeur de CO2 en surface, on va créer plus de phytoplancton en surface qui, à sa mort, va arriver au fond de l'océan, va nourrir encore plus les espèces qui sont sur le fond de l'océan. Et cette suralimentation va créer une surconsommation de l'oxygène océanique profond. et parce qu'on appelle désoxygéner les océans. Et ça, ça va contribuer à tuer tous les écosystèmes au fond de l'océan par asphyxie de l'oxygène consommé.
Alors, on retrouve aussi des traces de microplastiques dans le phytoplancton.
À chaque fois qu'on prélève du plancton, et ça on l'a observé un peu partout, quelle que soit la mer où on navigue, que ce soit l'Atlantique, les côtes, la haute mer, ou même le fin fond du Pacifique, on prend un prélèvement de plancton, on le regarde au microscope, et bien entre chaque plancton, il y a une particule de microplastique. Il y en a partout. Même à des endroits où on se croirait en vacances, dans les zones paradisiaques, en Pacifique Sud, on observe des tonnes et des tonnes de microplastiques dedans. Et aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions sur quoi faire du plastique qui est dans l'océan.
Mais il y a un débat dans la science là-dessus.
Oui, tout à fait, parce que l'océan, comme tout écosystème, a une résilience, c'est-à-dire une capacité d'adaptation au changement. Et il se trouve que le microplastique qui est dans l'océan est devenu un support de vie. C'est-à-dire que les micro-organismes planctoniques, mais aussi non planctoniques, vont se fixer sur ces particules de plastique et vont y vivre. De là à dire que c'est bien, pas forcément, parce que certaines espèces vont consommer le microplastique, certaines espèces de zooplancton par exemple, on a découvert qu'elles consommaient le microplastique, elles l'intégraient dans leur organisme, et du coup les poissons qui mangent ce zooplancton consomment ce plastique-là, et nous, consommateurs finaux, consommons in fine ce plastique. Mais ça pose quand même énormément de questions, parce que si du jour au lendemain on enlevait l'ensemble du plastique des océans, on pourrait tuer l'écosystème, parce qu'il faudrait que toute cette vie qui s'est accrochée dessus ait le temps de s'adapter à un nouveau support, qui originellement étaient des bois flottants, des pierres, des poissons, des baleines.
Quelles sont les principales conséquences de l'acidification des océans ?
L'une des conséquences majeures, c'est la décalcification des océans, l'absence de calcium, de calcite et ce genre de matériaux dont les espèces planctoniques, mais aussi mollusques, ont besoin pour vivre. Il y a énormément d'espèces vivantes, les huîtres, les moules, les planctons, qui ont besoin de calcium pour faire leur squelette. Typiquement les coccolithophores, qui sont des planctons calcaires, qui sont à l'origine par exemple des falaises blanches qu'on peut voir en Angleterre.
Ou à Etretat.
ont besoin de calcaire pour se former. Et donc s'il y a moins de calcaire dans l'océan, du coup leurs squelettes sont plus fragiles. Les coraux sont plus fragiles aussi, ils peuvent se dissoudre. Il y a aussi certaines espèces de poissons qui, par cette absence de calcium, vont voir leurs squelettes fragilisés, vont même perdre certains sens. Donc on est sur des conséquences à toutes les échelles.
Le rythme actuel de l'acidification est environ 10 fois plus rapide que les 55 millions d'années qui nous ont précédés. Quelles sont les perspectives ?
Les perspectives sont assez inquiétantes. Si on prend le rapport du GIEC et qu'on regarde les prévisions pessimistes, l'acidification va tripler purement et simplement d'ici 2100. Et ça va impacter les écosystèmes à tel point que les coraux vont se dissoudre. On s'attend à une disparition de 30% des espèces des écosystèmes océaniques et on s'attend à ne conserver que 25% des coraux existants d'ici 2100. Et si on veut que nos enfants aient un océan viable et des écosystèmes marins riches en espèces, il faut arrêter dès maintenant de polluer si on veut suivre la perspective optimiste du GIEC.
Et la grande question aujourd'hui, c'est de savoir à quel horizon les océans ne vont plus seulement absorber du dioxyde de carbone, mais en rejeter et devenir émetteurs de carbone. C'est d'ailleurs le cas pour la forêt amazonienne ou la forêt du bassin du Congo depuis 4 ou 5 ans.
En effet, on sait qu'une eau froide va absorber beaucoup plus facilement le CO2 atmosphérique qu'une eau chaude. Et donc si on continue à réchauffer les océans comme c'est actuellement le cas, on va arriver peut-être à un stade où on va émettre plus de CO2 par les nutriments dans le fond marin, par l'atmosphère, que l'océan sera capable d'en absorber. Lui qui est notre principal absorbeur de carbone planétaire, ce serait catastrophique.
Kinsar kum raya raya mung.
Cédric, tu le disais, les océans sont assez méconnus, ne sont pas aujourd'hui au cœur de la recherche parce que ça nécessite des moyens. Et pourtant, dans la modélisation climatique à venir, on aurait besoin de collecter de plus en plus de données sur les océans.
Acquérir des données océanographiques, comme tu l'as dit, c'est pas évident du tout. Comme on dit, la mer, c'est le moyen le plus lent, le plus mouillé et le plus inconfortable de voyager. Du coup, c'est un territoire qui est inhabité, les conditions sont difficiles. Avoir des données, ça nécessite des explorations logistiquement compliquées. Ce qu'on observe aujourd'hui, et qui est un changement majeur dans la conscience sociétale, c'est que les citoyens ont de plus en plus envie de s'impliquer dans la construction de la société. On le voit à toutes les échelles et pas que dans la science. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'aujourd'hui, les plaisanciers ont des moyens très faciles de faire le tour du monde. Pour te donner quelques chiffres, il y a 14 000 plaisanciers en haute mer tous les ans, alors qu'il y a seulement une quarantaine de navires océanographiques dans le monde qui vont en haute mer. Ça veut dire qu'on est sur un potentiel absolument incroyable du côté des citoyens de disposer de plateformes d'observation scientifique en mer sur l'échelle du globe. Il ne s'agit pas de remplacer la science existante, il s'agit de la complémenter.
Ça, c'est le deuxième volet de ton programme global de recherche.
Là, on lance une campagne sur 15 bateaux qui partent cet été pour justement faire une collecte océanographique dans différents endroits du globe. On a des bateaux qui partent en Islande, Groenland, on a des bateaux qui partent en Arctique, on a des bateaux qui vont vers les Caraïbes, d'autres qui sont en route vers le Pacifique, d'autres en Méditerranée. Et ça permettra d'étudier un petit peu température et salinité dans les différents endroits du globe. Et cette campagne, c'est que le début. Dans 2 ans, on vise une campagne avec une cinquantaine de bateaux. Et durant ces 3 ans de recherche, il va s'agir de perfectionner la méthode, le kit et le protocole et de voir quel type de science on est capable de produire pour ensuite passer vraiment à l'échelle supérieure avec plusieurs milliers de bateaux qui navigueront en permanence autour du monde avec des capteurs embarqués, des prélèvements de plancton pour que chaque voyage de chaque plaisancier autour du monde devienne une petite aventure scientifique. Tout notre travail, c'est d'essayer d'imaginer un protocole qui soit simplifié au maximum pour qu'il soit utilisable par tout le monde. En science, on a parfois besoin de faire des mesures très pointues, à très haute précision, avec des instruments haut de gamme. Et parfois, on a besoin de faire plein de mesures dans plein d'endroits différents. Et donc, grâce à ces sciences participatives, on a un potentiel de créer une science environnementale à très grande échelle qui permettrait d'accélérer l'acquisition des connaissances scientifiques. On pourrait le faire sur plus d'endroits, plus rapidement, en plus grand nombre. Et moins cher aussi.
Une fois que les datas sont collectées, qu'est-ce qu'elles deviennent ? Comment on les traite ?
Ça dépend beaucoup des programmes, mais dans tous les cas, les données sont traitées en collaboration avec les laboratoires. On a des chercheurs et puis parfois des citoyens, selon l'accessibilité du type de traitement qu'il y a à faire, qui vont analyser ces données et faire des publications scientifiques.
Est-ce qu'on a déjà un exemple aujourd'hui de science participative qui a produit des effets ?
En astronomie, il y a beaucoup de collaborations professionnelles et amateurs qui fonctionnent depuis très longtemps. Aujourd'hui, on est à une cinquantaine de publications par an produites par des citoyens qui apportent une vraie connaissance scientifique sur l'évolution des étoiles, comment notre Soleil évolue, la connaissance des cycles d'activité du Soleil qui ont un impact sur Terre, qui ont un impact sur la navigation aéronautique, qui ont un impact sur le climat, sur l'agriculture. Il s'agit vraiment de faire en sorte que tous les citoyens deviennent acteurs de la science. Il ne s'agit pas simplement d'être sensibilisé au changement climatique, d'être sensibilisé aux catastrophes environnementales, plastiques. Il s'agit de voir qu'est-ce qu'on peut faire et de faire en sorte qu'on connaisse mieux l'océan pour anticiper son comportement et notre action dessus et prendre les bonnes décisions pour l'avenir océanique.
De la mer aux étoiles, hein, ça pourrait être le titre de ce reportage. Cédric, bon vent. On se revoit bientôt.
Merci Samuel, à très bientôt sur un bateau. With the way that you say you wanna feel me I'll be at your place Keeping pace with the smoke in your face so you kill me Oh, you're just to die for and I'll be all yours Gotta get my fill of fire, wanna be a higher state of mind Walk in the dark shore, watching the bats soar Better be the bird in my bath, the pride flying kind I'd like to say you're a case interlaced with the Gulf Stream Made of clay from the baby who cares if in a dream
oh, as if in a dream, oh. So let me show you around, let me get you hot down, come and let me show you the town. Call me darling again, call me now, lady friend, I can get you there at the end. I'd like to say you're a case in a lace with gold stream. From the baby a care as if in a dream. I'm led astray from the gray and the ways of the mainstream. So someday we'll get away. Someday we'll get away. Let me walk on dark sands in the night. Let me see the light on the water. So let me get on what you're trying to give. Show a girl how to live or you caught her. So let me walk on knock sands in the night. Let me see the light on the water. So let me get on what you're trying to give. Show a girl how to live or you caught her. Oh, you're just to die for and I'll be up yours. Gotta get my fill of fire, wanna be a high state of mind. Walk in the dark show, watching the bat soar. Better be the bird in my by the bright flying kind. I'd like to say, oh, I'd like to say, oh, I'd like to say, I'd like to say, you're a case in a lace with the Gulf Stream, made of clay from the baby a care as if in a dream. I'm led astray from the gray and the ways of the mainstream. So someday we'll get away. Oh, oh yeah.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Des questions, des réactions? Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI, nous parlons des bouleversements que subit l'océan aujourd'hui à cause des changements climatiques. Avec vous Jean-Baptiste Salé, vous êtes chercheur au CNRS, au laboratoire d'océanographie et du climat. Comment réagissez-vous à ce reportage?
Bah, c'est extrêmement intéressant de voir ces expéditions, donc ces sciences participatives qui se développent là dans ce contexte particulier, mais de manière beaucoup plus générale dans les sciences et en océanographie et dans les sciences du climat. C'est quelque chose que je trouve tout à fait positif et pertinent.
Mais après, sur les informations qui sont délivrées, vous disiez en tant que scientifique, il y a quelques approximations.
Déjà, peut-être une précision potentiellement importante pour juste nommer les choses correctement. Donc, le Gulf Stream fait partie d'un système de courants marins de l'Atlantique Nord plus généralement. Et en fait, le Gulf Stream, c'est un courant très fort dont l'énergie vient principalement des vents. Et on s'attend pas à ce que les vents changent de manière très forte dans le futur. C'est pas forcément le Gulf Stream qui va ralentir, c'est plus ce système de courant océanique de l'Atlantique Nord qu'on appelle dans notre jargon AMOC, ou circulation de retournement de l'Atlantique Nord. Et c'est vraiment ce système complexe de courants marins qu'on comprend va ralentir dans le futur.
Mais alors quelles conséquences ça peut avoir cela ?
Un ralentissement de cette circulation de retournement de l'Atlantique Nord, ça peut avoir des conséquences importantes sur les climats régionaux, notamment provoquer donc un ralentissement de l'AMOC, ça aurait tendance à provoquer des sécheresses plus importantes au niveau du Sahel, ce qui peut avoir des conséquences évidemment très importantes dans cette région du monde.
Quel lien, enfin pourquoi est-ce que ça créerait plus de sécheresses au Sahel?
En fait, ça fait changer la latitude de certains systèmes atmosphériques qui provoquerait des changements de régime de mousson au niveau du Sahel, et donc des sécheresses plus importantes dans cette région du monde. Une autre conséquence prévisible, c'est un impact sur la production qu'on appelle primaire dans les océans des mers du Nord, c'est-à-dire une baisse des pêcheries, enfin des ressources en poissons, enfin sur les écosystèmes dans cette région du globe. Ça a aussi des impacts au niveau régional sur la hausse du niveau marin au niveau de la côte américaine. Voilà, c'est un certain nombre d'impacts sur les climats régionaux.
Mais du coup, est-ce que c'est le seul ensemble de courants marins qui peut être impacté par le changement climatique ou il y en a d'autres à l'échelle de la planète ?
Il y en a d'autres. Il s'avère que l'observation des courants est quelque chose de très difficile en océanographie. Et donc, c'est pour ça, même sur le passé, il y a un certain nombre de preuves qui nous font dire que ce système de courants de l'Atlantique Nord a ralenti dans le passé, mais on n'en est pas encore très sûr. On comprend très bien que dans le futur, ce système de courants de l'Atlantique Nord va diminuer. On en est assez, notre confiance est assez haute là-dessus. Par contre, sur ce qu'on peut dire des observations passées, c'est pas très clair. Et l'Atlantique Nord, c'est probablement le bassin océanique qu'on observe le mieux. Et donc, non, ce n'est pas la seule région en termes de courant océanique qui est impactée par le changement climatique, mais on a peu d'observations sur le reste des bassins du globe. Quelque chose qu'on comprend très bien, c'est tous ces systèmes de courant qui connectent la surface de l'océan avec les profondeurs. C'est exactement ce que fait ce système de courant de l'Atlantique Nord. C'est de l'eau qui va vraiment couler au niveau des hautes latitudes, donc vers le Groenland, l'Islande ou un peu plus au nord, qui va couler dans le fond des océans et par là même réguler les climats régionaux. Ces systèmes de courant qui connectent la surface et l'océan, on comprend très bien que ces systèmes vont changer dans le futur. Et ça, on retrouve ces systèmes de courant dans l'Atlantique Nord et aussi au niveau pourtour antarctique au pôle sud. Donc on sait que dans ces régions-là, les courants vont changer en réponse au changement climatique.
À l'école, on apprend que le Gulf Stream régule le climat en Europe. Du coup, est-ce que le climat en Europe pourrait être modifié à cause du ralentissement de ce courant marin ?
Oui, tout à fait. Donc la température en Europe dépend en partie de ce courant marin, mais une modification, un ralentissement du courant marin impactera les températures en Europe. Mais en fait, ça se rajoute à un réchauffement climatique qui est très intense, très fort. Et ça ne viendra que moduler la réponse de la température au changement climatique. Ce qu'on prévoit, c'est potentiellement un léger refroidissement au niveau de l'Europe. Mais la quantification de ce refroidissement reste assez léger. En tout cas, assez léger comparé au changement climatique qu'on vit depuis un certain nombre de décennies et qu'on va continuer à vivre dans les décennies et siècles à venir.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'on ne pourrait pas égoïstement se dire bah, finalement, avec le changement climatique, le climat européen va se réchauffer, mais comme le Gulf Stream va ralentir, ça va refroidir, donc tout ça va s'équilibrer.
Non, je pense que ça serait un mauvais calcul à cause des autres conséquences du changement climatique que j'ai déjà mentionné, et aussi parce que ce refroidissement de l'Europe est assez petit comparé à l'intensité du réchauffement climatique.
Alors plus globalement, c'est la structure fondamentale de l'océan qui est en train de changer et qui pourrait modifier du coup cette capacité qu'a l'océan à faire communiquer sa couche de surface et les profondeurs.
C'est quelque chose qu'on, encore une fois, qu'on prend très bien dans le réchauffement climatique, c'est que les océans changent fondamentalement dans leur structure. Ce qui se passe, c'est que l'océan a tendance à se réchauffer de manière beaucoup plus intense en surface qu'en profondeur. On a aussi, dans certaines régions, une intensification des précipitations qui rajoute une couche d'eau douce à la surface des océans. La fonte des calottes polaires aussi joue un rôle sur cet ajout d'eau douce à la surface des océans. Donc ces changements de caractéristiques de température et d'ajout d'eau douce font que la couche de surface de l'océan, ce qu'on appelle couche de surface, c'est typiquement ce qui est dans les quelques dizaines de mètres en surface de l'océan. Ces couches de surface changent en termes de propriétés et deviennent beaucoup plus légères. Ce qui fait que c'est un peu comme si on ajoutait une couche d'huile sur de l'eau. On a ce découplage des eaux de surface avec les profondeurs et c'est beaucoup plus difficile d'engendrer des mouvements sur la verticale. Et or, ce sont ces mouvements verticaux de l'océan qui permettent d'enfouir les signaux climatiques. Par exemple, de capter la chaleur en surface puis de l'enfouir dans les profondeurs pour nous rendre ce service que joue l'océan en termes d'éponge de chaleur, d'éponge de carbone, pour le prendre depuis l'atmosphère et l'enfouir dans les profondeurs. Tout ça est rendu plus difficile avec un océan qui se découple de ses couches de surface.
Et du coup, ça a quelles conséquences là ?
Ça a des conséquences, typiquement, de changer les circulations océaniques. qui connecte la surface avec les profondeurs. Donc, une des conséquences de ce découplage est le ralentissement du système de circulation de l'Atlantique Nord, le système de circulation de retournement de l'Atlantique Nord. Et donc, avec des conséquences sur le stockage de chaleur et de carbone des océans. Il s'avère qu'on on ne sait pas encore bien quantifier aujourd'hui quelle est la conséquence en termes de stockage de chaleur et de stockage de carbone dans les océans.
Ça a des conséquences aussi, j'imagine, sur la faune qui vit dans les océans.
Oui, ça a des conséquences sur les écosystèmes marins. La plupart des écosystèmes vivent dans les couches de surface et donc les changements de conditions des couches de surface ont un impact direct sur l'écosystème marin. En termes, l'impact peut être à travers la température, ça aussi à travers des changements d'accès à la lumière et aux nutriments. Si on découpe les couches de surface des profondeurs, on a des impacts de ce type-là sur les écosystèmes.
Mais c'est-à-dire quoi ? Il y a des espèces qui se déplacent, des espèces qui ne vont plus pouvoir vivre dans certaines zones.
Alors quand on parle de réchauffement, les espèces, les espèces qui peuvent se déplacent dans des régions plus froides, donc soit plus vers les hautes latitudes ou soit plus vers les profondeurs. Certaines espèces ne peuvent pas se déplacer ou pas au rythme imposé par le changement climatique et donc ont des impacts néfastes sur leur démographie ou sur leur survie. D'autres impacts, si on ne parle pas que du réchauffement, mais il y a aussi des impacts sur l'accès aux nutriments, donc notamment pour tout ce qui est de la croissance du plancton, du phytoplancton notamment dans l'océan, donc et c'est le premier maillon de la chaîne alimentaire dans les océans. Le développement de ces forêts de plancton ont besoin d'accès à des nutriments. Ces nutriments d'importants stocks se trouvent en profondeur et donc il faut que ces nutriments puissent remonter en surface. Et donc c'est ce découplage dont je parlais tout à l'heure a un impact sur cet accès aux nutriments pour le phytoplancton en surface.
Les changements dans l'océan qui ont lieu à l'heure actuelle à cause des changements climatiques s'installent et vont se poursuivre sur des milliers d'années ?
Oui, certains aspects du changement climatique répondent directement à la température de la Terre et donc peuvent être arrêtés. Enfin, la dégradation peut être arrêtée. J'entends ici tout ce qui est événements extrêmes, donc canicules, sécheresses, pluies diluviennes. Tout ça répond directement à la température moyenne de la Terre. Ce que ça veut dire, c'est qu'à partir du moment où on aura stabilisé la température de la Terre, on arrêtera la dégradation, l'intensification de ces événements. Par contre, il y a certains aspects du changement climatique qu'on ne peut pas vraiment arrêter. Quoi qu'on fasse, même si on arrive à stabiliser la température de la Terre, certains changements sont engagés. C'est tous les éléments du système climatique qui ont une réponse très longue, qui ont une évolution très longue, beaucoup d'inertie. Ça, c'est typiquement les océans et les calottes polaires. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que nos actions à l'heure actuelle vont avoir un impact très important sur l'amplitude des changements futurs. On ne peut pas arrêter ces changements, mais on peut avoir un impact très fort sur l'amplitude du changement. Si on arrive à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, on aura des changements beaucoup moins importants sur les océans et sur les calottes polaires. Par contre, ces changements engagés, on sait qu'ils sont engagés pour des centaines à milliers d'années.
Des centaines et des milliers d'années. Merci beaucoup Jean-Baptiste Salé d'avoir répondu à nos questions. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons demain, même planète, même heure. Littérature.